Vas-y, c'est bon.
Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial et j'ai l'honneur d'échanger avec Darina pour ce 100e épisode d'Amcamgram. Il fallait bien marquer le coup et interroger donc la fondatrice du tout premier podcast sur l'account management en France. On reviendra sur ton parcours, ton rôle actuel chez Welcome to the Jungle, les prémices du podcast et quelques anecdotes que tu pourras nous partager. Et pour commencer et honorer la tradition, quel est ton plat préféré? C'est pour tes stats perso.
Oh là là, Ellie, mais quel farceur, quoi. Il démarre vraiment en trombe. Bah écoute, moi, tu sais, je suis très old school dans la nourriture. Du coup, mon plat préféré, c'est des tomates farcies avec du riz.
Efficace comme on aime, c'est parfait. En plus, là, un peu un plat estival, tomates farcies, c'est sympa en plein été, c'est parfait. Du coup, tu as l'habitude, Darina, du podcast. Du coup, on va commencer par parler de toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs?
Oui, bon après ils me connaissent un petit peu, hein. Donc Darina, j'ai 31 ans depuis le 5 juillet. J'habite à Ivry et comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis actuellement account manager chez Welcome to the Jungle. À côté de ça, je suis également prof puisque il m'arrive d'intervenir ponctuellement dans des écoles de commerce pour faire des cours soit de marketing ou encore de marque employeur, ou tout simplement de parler de mon parcours assez mouvementé, ce que j'appelle une jungle avec tout ce que ça comporte. Et à côté de ça, je suis également bénévole au Resto du Cœur. Voilà ce qui me prend beaucoup d'énergie dans ma vie et ce que j'aime faire.
Donc tu partages ton temps sur plusieurs sujets. J'imagine ça ne doit pas être tout le temps évident. Et du coup, comme tu le disais, donc toi finalement le métier de l'account management, tu l'as découvert il y a quelques années dans tes précédentes expériences.
Ouais, tout à fait. Je l'ai découvert il y a maintenant 7 ans, puisque je suis rentrée en 2014 chez La Fourchette. Et ce qui est un petit peu insolite, c'est que j'ai démarré ce métier d'account manager sans savoir du tout quels en sont les contours et en quoi ça consiste. Si tu veux, quand je suis arrivée en 2014, quand j'ai frappé littéralement à la porte de l'entreprise La Fourchette, la DRH m'a dit, ah, écoute, Darina, vas-y, t'as un diplôme en marketing, donc si tu veux, on a des postes en market. Et moi, je lui ai dit, bah, ce qui m'embête un peu, c'est que le secteur de la restauration m'intéresse, mais j'aimerais bien le connaître de l'intérieur. Et avant de savoir parler à des interlocuteurs, notamment bah, les restaurants, j'aimerais être en face à face avec eux et bah, du coup échanger avec eux au quotidien. Et elle m'a dit, bah, il y a un poste qui s'appelle Account Manager. J'ai dit, ok, je prends, on verra bien.
Et donc tu l'as jamais quitté. Finalement, tu n'es pas revenu vers le marketing.
Eh non, pas encore, du tout.
Bon, ça montre que ça te plaît, du coup, j'imagine, comme job.
Ouais, tout à fait. Ben après, tu sais, je donne toujours des petits cours de marketing à droite à gauche, donc c'est chouette. Et puis, je vois aussi les actions marketing côté marque employeur que mettent en place mes clients. Donc, on va dire que l'un dans l'autre, je m'y retrouve quand même.
Excellent. Top. Du coup, si on va un peu plus dans les détails, justement pour parler de ton rôle aujourd'hui que tu as chez Welcome, est-ce que tu peux nous préciser en quoi consiste le métier d'account manager chez Welcome?
Alors, le métier d'account manager chez Welcome to the Jungle, pour faire simple, en une phrase, ça va être de s'occuper de tout le cycle de vie du client. Donc, plus précisément, on va le prendre en charge dès qu'il a signé avec un sales. Donc, au jour 1, on va prendre contact avec lui, on va se présenter, lui souhaiter la bienvenue dans la jungle et on va concrètement mettre en place ensemble sa vitrine sur Welcome to the Jungle. Donc, ça va passer par lui envoyer de quoi remplir ses textes de description et également organiser le tournage, c'est-à-dire qu'on envoie un photographe dans les bureaux de l'entreprise pour prendre des photos et des vidéos afin de refléter ce qu'est l'entreprise, quel message, ce qu'elle a envie de passer. Une fois qu'on a fait ce projet, en tout cas de création de la vitrine, bah là, on va vraiment pouvoir rentrer dans le dur. Donc, je donne des accès au Welcome Kit, c'est l'outil de gestion des candidatures, à mes interlocuteurs et après ils vont pouvoir être autonomes sur la publication de leurs offres, la gestion des candidatures et après on va avoir des touchpoints réguliers, ce qu'on appelle nous la customer journey. On va avoir minimum 4 touchpoints avec nos clients dans l'année. Ça peut être des touchpoints pour savoir si ils ont bon usage, ils font bon usage de la solution, s'ils arrivent à recruter les profils qu'ils recherchent ou même pour les aider à mettre en place des projets marque employeur comme par exemple la refonte de leur site internet, mieux prendre la parole sur les réseaux sociaux ou encore ça peut être des enjeux très spécifiques. Ça me fait penser à une entreprise dans la tech qui me disait, bah voilà, moi Darina, mon projet c'est d'avoir plus de femmes dans la tech. Donc comment est-ce que Welcome to the Jungle peut nous aider à faire passer ce message pour attirer les bons candidats?
Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous en tête plutôt la mission côté recrutement de Welcome, mais finalement la mission a l'air d'être beaucoup plus large, même en termes de, tu parles beaucoup de vitrine. Donc aujourd'hui, tu accompagnes vraiment tes clients sur les aspects recrutement, mais également marque employeur et même stratégie plus globale autour de ce sujet.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Welcome to the Jungle sur la partie recrutement, et moi la première. Mais en fin de compte, voilà, comme tu dis, la mission de Welcome to the Jungle, elle est beaucoup plus globale. C'est de permettre aux entreprises de montrer qui elles sont pour recevoir peut-être moins de candidats, mais des candidats plus qualifiés et des candidats qui vont se reconnaître dans ce que fait l'entreprise. Donc okay. Moi, c'est ça que j'apprécie. C'est vraiment rentrer dans le cœur du réacteur, me mettre à la place de l'entreprise, de me dire qu'est-ce qu'elle a envie de faire et comment est-ce que je peux l'aider à atteindre ses objectifs grâce aux outils dont on dispose.
Super clair comme présentation. Et par rapport à la structuration donc de l'équipe aujourd'hui, comment vous êtes structuré et quels sont les enjeux que vous avez?
Alors, l'équipe account management d'aujourd'hui, elle n'était pas la même il y a de cela un an. Je t'explique. En fin de compte, lorsque je suis arrivée en février 2020, il y avait deux équipes en post-closing. Tu avais les onboarding managers et tu avais les account managers. Aujourd'hui, on a fusionné. On fait plus qu'une seule et même équipe. Pour te dire, avant, il y avait ceux qui s'occupaient vraiment de la mise en place de la vitrine, donc organisation des tournages. Et après, l'account manager qui s'occupait beaucoup plus de toute la partie renouvellement de contrat, puisqu'on est sur un contrat de 12 mois, et rétention du churn et upsell. Mais là, à travers ce que je te dis, tu vois un peu le good cop, bad cop, avec celui qui est super sympa, qui va envoyer le photographe prendre des jolies photos, des jolies vidéos, et l'autre qui te dit « Ah bah le prix va augmenter ». Donc en fait, autant te dire que le client, il avait qu'un seul numéro qui était noté dans son répertoire, et bizarrement, c'était jamais celui de l'account manager. Donc on a décidé de fusionner les deux équipes, et aujourd'hui, tu vois, on est une vingtaine de collaborateurs sur l'équipe account management. Et pour te dire, on est segmenté par rapport à la nomenclature de nos clients, c'est-à-dire à la taille de l'entreprise. Donc, tu vas avoir deux équipes SMB, donc Small and Medium Business, celle dont je fais partie. On s'occupe des entreprises entre 0 et 150 collaborateurs. Tu as une équipe Medium Business et tu as une équipe de Key Account.
Finalement, donc un client chez vous a tout le temps accès à un account manager?
Oui, tout à fait. 100% des clients disposent d'un account manager et on essaye vraiment de respecter tous la même nomenclature de touchpoints. Comme je te disais, on va avoir cette fameuse customer journey qui va rythmer les 12 mois de l'abonnement de nos clients, donc 4 touchpoints minimum. Et après, ça va être des touchpoints un peu plus poussés peut-être côté key account qui, eux, vont avoir moins de clients en portefeuille et vont peut-être avoir de la bande passante pour aller les voir sur place. Que nous, tu vois, typiquement, moi, je vais avoir un portefeuille de 200 clients. Donc, les relations vont peut-être être principalement gérées par email, par téléphone, par visio. C'est beaucoup de gestion de volume. Et encore une fois, je pense que ça, c'est un challenge. Alors, on dit toujours, moi, je déteste de dire, bon, les account managers, c'est step 1. Et quand t'évolues, t'es qui account manager? Moi, je suis pas trop d'accord avec cette approche, voire je la combats fermement de dire que c'est deux compétences différentes et la gestion du volume, c'est hyper, hyper clé.
Ah, c'est clé, je pense qu'on le voit du coup en étant moi aussi anciennement et encore un peu maintenant Customer Success Manager, je vois que le sujet du volume, c'est ce qui fait que notre agenda est souvent très rempli, qu'il faut choisir ses priorités à chaque fois et vraiment aller là où il y a de la valeur à apporter aux clients. Et du coup, si on parle effectivement des enjeux, peut-être que tu retrouves dans ton équipe en particulier sur les SMBs, c'est quoi aujourd'hui?
Alors, on a un objectif de chiffre d'affaires, tu vois, c'est notre unique KPI, c'est le chiffre d'affaires. Et nous, ce qu'on va viser, c'est un net churn négatif. Tu n'es pas sans savoir qu'avec le passage de la crise sanitaire, notamment depuis mars 2020, il y a eu des gros mouvements de panique, entre guillemets, surtout côté RH, recrutement, il y a eu des gels de recrutement, il y a eu des mises en stand-by de projets, des coupes budgétaires. Donc, je t'avoue que nous, Welcome to the Jungle, étant un presta sur la marque employeur, on a été assez impacté par ce mouvement. Et du coup, on fait la chasse au churn, bien entendu. Donc, en fait, notre KPI, ça va être le net churn, à savoir le nombre de comptes qui nous quittent, moins le chiffre d'affaires qu'on va générer grâce à deux paramètres qui sont l'upsell, le renouvellement classique ISO et le new business. Quand je dis new business, ça veut dire que nous-mêmes, account manager, on a le droit, ça c'est une bonne nouvelle, de signer des nouveaux comptes. Et notamment, ce qu'on a mis en place de manière assez logique finalement, c'est un process d'offboarding, c'est-à-dire d'accompagnement vers la sortie de certains comptes qui vont churner pour des raisons qui sont entre guillemets involontaires de la satisfaction, mais plutôt économique, et on va justement préparer de la meilleure des manières possibles leur retour sur, dans la jungle. Et donc, c'est ce qu'on appelle du comeback. Donc, ce chiffre d'affaires qui est du new business, mais entre guillemets, c'est celui qu'on avait perdu il n'y a pas très longtemps, tout ça rentre dans le net churn. Et du coup, comme je te disais, nous, notre but, c'est que l'argent qu'on fait rentrer est supérieur à l'argent qu'on perd.
Ok, donc c'est super intéressant ce que tu dis, c'est que aller réattaquer des clients qui ont churné, c'est dans la casquette de la compte manager chez vous.
Complètement, comme je te disais au début, nous on s'occupe de tout le cycle de vie d'un client chez Welcome to the Jungle, et la sortie fait partie aussi du cycle de vie. Donc nous parfois on préfère perdre une bataille pour gagner la guerre, et on s'est rendu compte qu'un compte qui nous a quitté revient en moyenne au bout de entre 4 et 6 mois plus tard.
Ok, c'est hyper clair. Et du coup, toi, comment, c'est intéressant, pendant ces 4-6 mois, est-ce que tu as des cadences que tu renvoies à ton client qui a churné?
Bah ça, c'est tout le sujet du moment. Tu as tout le process d'offboarding qui est en train de se mettre en place, de se dire, je dois bien comprendre les raisons pour lesquelles le client nous quitte, et aussi quel est son rythme à lui, c'est-à-dire à quel moment est-ce que lui souhaite qu'on reprenne contact, dans le sens où j'ai pas envie de revenir vers lui trop vite, trop tôt, ce qui pourrait casser la relation. Donc je vais vraiment m'adapter. S'il me dit nous on va plutôt rester sur des recrutements de stagiaires entre avril et novembre, tu vois, typiquement les deux moments phares, dans ce cas-là je vais reprendre contact peut-être en octobre ou au mois de mars pour essayer d'anticiper un petit peu. Et après il va me dire on est en train de clôturer les budgets, du coup rappelez-moi d'ici un mois et demi, comme ça on s'organise. Et je vais vraiment cadencer par rapport à ce que me dit mon prospect, puisque maintenant c'est un prospect, et je vais aussi le nurturer un petit peu en lui envoyant des fois des mails, en le tenant informé de notre actualité. Donc ça veut être une alternance entre des cold emails et des cold calls, avec un petit peu d'informations par-ci par-là pour l'aider à se projeter.
Donc finalement, les deux choses à retenir, c'est bien gérer le moment d'offboarding pour avoir toutes les informations à disposition ensuite pour revenir au bon moment, voir le prospect, comme tu l'appelles, et à côté du nurturing, d'email ou de cold call, pour être sûr à côté que la personne ait toujours du contenu et la marque Welcome en tête.
Exactement, sans être trop agressif, attention. Par exemple, dans les mails, tu vois, ne pas forcément mettre de calendrier, parce que là, ça fait vraiment le commercial avec la casquette rouge, quoi, tu vois.
C'est vrai, et la compte manager n'est pas non plus un sales. On a, comme tu dis, beaucoup d'attitudes et de postures plutôt care à apporter aux clients. Donc c'est top. Dans tout ce que tu mentionnes là, finalement, vu que la compte manager chez Welcome gère l'ensemble du customer journey, ce qui est assez important, qu'est-ce que tu préfères le plus, toi, au quotidien?
Disons que, tu sais, je t'ai dit, moi, je suis sur la cible SMB, donc les entreprises entre 0 et 150 collaborateurs, et ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir la primeur des nouvelles pépites de demain, tu vois. J'ai des entreprises qui sont pas trop connues sur le marché, puis en fait, je commence à les suivre un peu sur LinkedIn, et là, je vois qu'elles commencent à avoir une résonance, je vois qu'elles commencent à avoir des projets, qu'elles font des levées de fonds. Enfin voilà, moi, ce que j'aime, c'est être à l'avant-garde de ce qui va se passer demain et de me dire « Putain, c'est mes clients, je les accompagne, ils passent à la télé et tout, c'est trop bien ». Ou même, bon alors ça c'est soit des petites entreprises, tu vois, des graines de stars, ou bien aussi ce que j'adore, c'est quand les entreprises me font part de leurs projets et qui me disent voilà ce qui est prévu, mais on va le mettre en place seulement mercredi prochain, genre un rebranding. Et tu vois, typiquement, j'ai participé au projet de rebranding de bureau à partager qui est devenu Ubique il y a quelques semaines. Et franchement, c'est un gros kiff, quoi. Tu te dis, t'es au cœur du réacteur quand tu fais ça.
Super intéressant. Alors, petite question là-dessus, je vais sauter sur l'occasion. Tu parles des découvertes des pépites de demain. Est-ce que tu aurais une ou deux pépites à nous partager là maintenant?
Bah écoute, t'as Beanstalk qui est arrivé dans la jungle il n'y a pas très longtemps. C'est une entreprise qui est sur l'investissement immobilier. Et en fait, à chaque fois, il me disait « Darina, est-ce qu'on pourrait faire un tournage ?» Mais très, très rapidement, je dis « Mais attendez, vous avez déjà fait un tournage il n'y a pas longtemps. »« Oui, mais l'équipe, elle s'agrandit, c'est important, c'est important. » Bon, bah d'accord, ok. Bah moi, j'en profite pour faire signer un devis de renouvellement anticipé, donc ça me va bien. Je fais revenir le photographe. « Darina, est-ce que tu peux m'envoyer vite, vite des photos des fondateurs parce qu'on va avoir des relais dans la presse ?» Oui, bah, enfin, attendez, nous, les tournages, une fois qu'ils sont effectués, ça met entre 5 et 7 jours pour le montage. Non, mais juste celui-là, juste celui-là. Bon, ok, je me plie, je m'adapte, je presse un peu les équipes et tout. Et là, je me rends compte le lundi suivant qu'ils annoncent la levée de fonds et que les photos qui ont été prises par Welcome, elles apparaissent dans pas mal de supports. Donc, tu vois, ça fait trop plaisir.
Excellent. Effectivement, belle start-up qui se lance. Je connais un petit peu Alexandre, l'un des fondateurs du coup de Beanstalk. C'est top. Du coup, est-ce que si on revient sur ton quotidien aussi d'account manager, c'est quoi un peu les outils que vous avez dans l'équipe chez Welcome?
Alors, on va utiliser très classiquement la suite Google, notamment Gmail et Google Agenda pour pouvoir savoir ce qui nous attend dans nos journées. Ensuite, on va utiliser pour toute la partie onboarding. Bah, tu sais, on est en gestion de projet sur la construction des vitrines des entreprises. Donc là, on va travailler avec Trello pour les échanges entre l'équipe de prod et nous-mêmes. Sachant qu'on va bientôt passer sur Monday. Alors, je ne connais pas encore cet outil, mais j'ai hâte de le découvrir. En termes ensuite sur la partie plus day to day, on va utiliser Pipedrive avec de nombreuses connexions avec Zapier. Pour la partie des devis, on va utiliser NetSuite qui fait partie de Oracle et on va utiliser la signature électronique avec GetAccept. Sur la partie BI, on va utiliser Looker et Cobra aussi. Alors ça, c'est un outil que je connaissais pas et qu'on a implémenté il y a pas très longtemps, qui permet aux populations sales de connaître le montant de leurs variables au jour le jour. Donc typiquement, dès que j'ai un contrat signé, hop, je vais m'empresser de rafraîchir Cobra et là, tu vois les sous qui arrivent, donc ça, c'est chouette. Et ensuite, sur la partie plutôt management, avec Man+1, je vais utiliser Popwork. Et voilà, et puis comme je te disais tout à l'heure, pour prendre les rendez-vous, Calendly.
Excellent, beaucoup d'outils au final, oui. Au quotidien sur lequel tu dois jongler, j'imagine.
Oui, après ça rentre dans les réflexes.
Excellent, c'est top. Et si on finit cette partie-là sur la partie welcome, est-ce que tu aurais une anecdote d'un meeting client à nous partager?
Bah, j'ai le souvenir d'un client qui venait juste de signer avec Welcome to the Jungle. Donc, très classiquement, je l'appelle, je me présente, je lui souhaite la bienvenue sur Welcome to the Jungle. J'essaie un peu de définir avec lui les prochaines étapes de mise en ligne de sa vitrine. Et là, on allait raccrocher et il me dit « Au fait, Darina, c'est pas toi qui as créé le podcast sur l'account management ?» Et moi, j'étais là « Ah !» Je ne sais pas comment est-ce que tu as eu cette information, mais oui, c'est bien moi. Donc, c'était vraiment trop mignon. Je me suis dit, ça fait bizarre qu'on m'en parle spontanément, en fait. Donc, c'était vraiment chouette d'avoir cette connexion entre mon métier, mon entreprise et mon podcast.
Excellent. Est-ce que tu l'as vu comme une consécration?
Un petit peu, j'avoue.
Excellent, et ça fait une super bonne transition sur la deuxième partie de ce podcast. Du coup, revenir effectivement un peu l'Inception, le podcast dans le podcast, sur Amcamgram, les prémices un peu de l'aventure. Et si on revient sur les débuts et le lancement, déjà, qu'est-ce qui a été pour toi le déclencheur pour lancer ce podcast et quels étaient tes objectifs?
Alors, ça va te paraître bizarre, mais c'était le ras-le-bol. C'était le ras-le-bol de déclencheur parce que franchement, ça faisait genre 3 ans que j'étais à fond sur les podcasts, notamment les podcasts sur l'entrepreneuriat ou les podcasts métiers. Et notamment, tu vois, je suis fan du podcast Growth Makers de Gabriel Gorovitch qui parle de l'inbound marketing. Donc ça, c'est top en termes de stratégie d'acquisition online. Ensuite, il a créé un podcast qui s'appelle Dans l'arène où là, il met en avant les stratégies commerciales des plus belles startups, comme il le dit. Et je me suis dit, bon, mon petit Gabriel, t'as fait l'inbound marketing, t'as fait le sales, tu vas bien me pondre un podcast sur l'account management, sur tout ce qui se passe après closing. Et là, j'attends, je me dis, punaise, allez, dès qu'il crée le podcast, je lui envoie un message sur LinkedIn en mode, est-ce que je peux être invité? Sauf que bah rien ne se passe et j'ai attendu bien un an et demi. Je me suis dit, bon, allez, personne ne veut lancer ce podcast. Bon, bah, vous me laissez pas le choix, je vais le faire. Donc voilà, j'ai lancé vraiment de manière un petit peu ras-le-bol, un peu inconsciente. Et pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment d'objectif avec ça. J'aime bien me lancer dans des projets plus grands que moi et je verrai bien où ça va me mener. Mais je pense que c'était plutôt pour assouvir une frustration que pour construire quelque chose réellement.
Excellent. Donc en fait, t'as vu qu'il y avait un besoin, finalement, un trou, une absence. Et tu t'es dit, bah, je vais prendre moi-même les devants si personne d'autre le fait. Et t'as lancé Amcamgram.
Bah ouais, mais j'en avais marre qu'on parle tout le temps d'acquisition. Et surtout, bon, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Mais moi, ce qui me frustrait, c'était de se dire que, oh là là, j'ai mis tellement de temps à signer un contrat que, allez, c'est la fin. Mais non, quand je signe un contrat, c'est le début de l'histoire avec le client. Donc, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez à la page de couverture? Genre, ouvrez le livre, tu vois.
Très belle image. J'aurais pas mieux dit. Et du coup, le reste du funnel, effectivement, et c'est le tout début de l'histoire, comme tu le dis. Et surtout, voir le client grandir, ça se passe avec les équipes d'account management. Donc là-dessus, j'aime beaucoup l'histoire. En tout cas, la story de début, je la connaissais pas. Donc, ravi de voir ça. Et dans cette démarche, quand tu t'es dit, ok, bon, maintenant, il y a ce manque-là, et je vais y répondre, enfin, je vais me lancer puisque personne ne le fait. Quelle a été la démarche? Quelles ont été les premières étapes dans ce process de création?
Alors, les étapes, ça a été au début, je me suis dit, tiens, je vais en parler autour de moi, je vais en parler à mes proches. Sauf que bah tu te doutes bien que dans ma famille personne n'est account manager et franchement personne ne connaît staff. Donc je me suis dit, alors ils savent que j'ai envie de lancer un truc un peu farfelu et ils sont derrière moi, donc why not. J'en ai parlé à mes collègues de La Fourchette à l'époque, ouais, mes anciens collègues de La Fourchette, et ils m'ont dit, ouais, ça peut être bien, mais est-ce que tu t'y connais un peu en montage et tout? Je dis, bon, écoutez, moi pour le montage je pense que je vais sous-traiter, je vais pas me faire chier avec ça. Et par contre, le réseau, ça, c'est mon dada, il n'y a pas de souci, je suis account manager, je dois bien connaître d'autres account managers, pas de problème. Ok, d'accord, pas de souci. Bon, alors après, ce que j'ai fait très concrètement, c'est que je suis allée acheter un enregistreur Zoom H4N que j'avais vu sur les conseils de différents podcasteurs professionnels. Donc là, je me dis, allez, c'est bon, j'ai le matos, j'ai l'envie, j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait, rien du tout. C'est-à-dire que l'enregistreur, dès que je parle, ça fait... Je sais même pas l'utiliser. Il y a 50 boutons, j'y comprends rien. Quand je regarde autour de moi dans mon réseau, bah, à part les gens de La Fourchette, je connais personne, je connais aucun account manager. Et je me dis, bon, alors faire un podcast avec que des gens de La Fourchette, sachant que je ne suis plus à La Fourchette, ça fait très bizarre. Et en termes de montage, quand j'ai vu les prix... Genre 150 € pour un épisode de 30 minutes, je me suis dit, ok, alors je ne pense pas mettre toutes mes économies dedans et je ne pense pas, en fait, comment dire, faire confiance à quelqu'un parce que le contenu, c'est hyper intéressant. Le montage, c'est une chose pour les petits bruitages, les petits sons parasites, mais le fond, c'est ce qui compte le plus et moi, j'ai envie d'être maître de ça. Donc, je me suis dit, en fait, ça s'est complètement retourné. Au niveau du montage, bah, j'ai appris sur Audacity, qui est l'outil gratuit natif sur PC. Et puis pour la partie réseau, je suis tombée vraiment de haut parce que je connaissais vraiment personne pour le coup. Et puis bah, j'ai commencé à tâtonner sur LinkedIn, à aller voir les entreprises que j'aime. Par exemple, typiquement, tu vois, j'ai tapé Spendesk et après, je commence à dérouler. Alors, il y a des entreprises où tu as des account managers, des key account managers, des customer success managers, des ceci, des cela. Et puis après, quand il y en avait plusieurs, bah, je me disais, bon, alors voyons un peu l'expérience qu'ils ont. S'ils sont en stage, peut-être que c'est pas forcément la meilleure personne à interroger, et ainsi de suite. Et là, je vois, par exemple, bah, Ellie, ah, punaise, ça a l'air solide. Allez, je vais lui faire une demande d'ajout. Après, j'attends que la personne m'accepte. Et après, je fais mon petit message outbound en mode « Salut !» Donc, ça a été très compliqué le démarrage, surtout pour les tout premiers, parce que en fait, j'étais en train de leur vendre un truc qui n'existait pas. Encore par la suite, je peux dire « bah tiens, écoute tel ou tel épisode et tu me dis si ça le fait, si tu le sens. » Mais pour les premiers, c'était « Je vais créer un podcast sur l'account management. » Et les gens me disaient « bah t'es super sympa, mais en fait… Enfin, je vois pas en quoi mon métier est intéressant. Et c'est vrai que les account managers n'ont pas l'habitude de parler de leur métier.
Parce qu'effectivement, en fait, il n'y avait pas de podcast ou de contenu pertinent sur ce sujet-là. Et entre le moment où tu as décidé de te lancer et le moment où tu as enregistré le tout premier podcast, combien de temps ça a pris ?
Bah, tu vois, j'ai acheté mon matos début mars 2020 et j'ai lancé le premier épisode fin avril 2020. Donc, on va dire, ça a pris un mois et demi. Je voulais avoir du pipe avant de lancer. J'avais déjà, je pense, une dizaine d'épisodes qui étaient prêts. Et vu qu'on était en confinement, j'avoue que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde.
Donc, le confinement a permis justement à la fois de monter en compétences, donc sur la partie enregistrement d'un épisode de podcast, d'acheter le matos nécessaire et de contacter les premières personnes qui ont pu faire composer les premiers épisodes finalement.
Bah, confinement ou pas, moi je l'aurais fait parce que j'aurais trouvé du temps dans ma semaine, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les invités, j'avoue que eux, comme eux avaient du temps, ils ont accepté de m'en consacrer une partie.
Ok, et quand tu disais les premières réactions à tes messages qui étaient plutôt pas forcément tout de suite emballés, généralement comment t'as poussé à ce que finalement les gens décident de venir au micro ?
Bah, c'est dur parce que mais c'est comme toute prospection, t'as envie d'expliquer rapidement et succinctement, mais d'un autre côté, si tu expliques pas tout, on comprendra pas ce que tu veux, ce que tu recherches. Donc, j'essayais un peu de faire un mix en disant, voilà, toi et moi, on est account manager, mais je suis sûre qu'on fait pas la même chose. Je suis sûre qu'il y a plein d'account managers autour de nous dans des boîtes super, mais qui font pas du tout la même chose, qui ont pas les mêmes outils. Viens, on partage tout ça. Et y en a un qui m'a dit oui, deux qui m'ont dit oui, trois qui m'ont dit oui. Et puis, petit à petit, ça a commencé à faire son trou.
Et finalement, aujourd'hui, est-ce que tu sais à peu près Enfin, la cible que tu avais en termes d'auditeurs au moment où tu as lancé le podcast, est-ce que déjà tu en avais une cible ou comme tu le disais, c'était vraiment tu as lancé ça sans aucune cible et aujourd'hui, est-ce que tu sais un peu mieux qui est cette cible finalement qui t'écoute ?
Franchement, c'est une bonne question. Au démarrage, non, je me suis lancée de manière totalement inconsciente. Écoute qui voudra et en plus, c'est un sujet vraiment de niche. Donc, écoute vraiment qui voudra. Si c'est ma mère pour me faire plaisir, ok, très bien, soit. Et aujourd'hui, ouais, bien sûr, j'ai plus d'informations sur les auditeurs. Il va y avoir différentes typologies. Il va y avoir les auditeurs un peu de la première heure qui sont fidèles, qui sont souvent des personnes qui occupent ce métier de base, account manager, customer success manager. Je vais avoir aussi ponctuellement les collègues de la personne qui est interviewée, parce que c'est super sympa d'entendre un peu parler de la boîte avec un peu de recul. Je vais avoir aussi une cible d'étudiants qui se cherchent un petit peu, qui essayent d'en savoir un peu plus, soit en complément de leur formation, soit parce qu'ils recherchent du boulot sur la partie plutôt satisfaction client, plutôt care. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des messages que je reçois de personnes qui sont en reconversion, donc qui ont plusieurs années d'expérience professionnelle déjà et qui entendent de plus en plus parler de ce métier. Donc ça fait hyper plaisir parce que c'était vraiment l'objectif principal du podcast, cette partie un peu de notoriété de notre métier et qui se disent bah tiens, je sais pas, par exemple j'étais en product jusqu'à présent, j'ai fait 10-15 ans dans le product et aujourd'hui j'ai envie d'explorer le customer care.
Top, finalement une audience plutôt variée et que tu as découvert au fil de l'eau toi-même en enregistrant les podcasts et en ayant des retours j'imagine de la part de ceux qui écoutent.
Oui, tout à fait.
Alors, je crois que sur le point de qui t'a inspiré, je pense que tu as répondu en disant Gabriel Gourovitch.
Tout à
Est-ce
fait.
que tu lui avais parlé, du coup, finalement, quand toi, tu as dit, voilà, bon, en fait, toi, tu l'as pas fait, moi, je vais le faire. Est-ce que peut-être tu lui as demandé des conseils ou autre?
Non, j'avoue que je me suis vraiment faufilée dans son ombre très discrètement et je ne lui ai parlé pour la première fois de ma vie que très récemment, tu vois, c'était il y a quelques mois de ça, pour lui dire, tiens, ça pourrait être chouette d'avoir des synergies avec ton podcast. Et bon, il m'a gentiment renvoyé boulet pour l'instant. En disant ouais pourquoi pas mais bon tu sais j'ai plein de demandes dans ce sens donc bon, j'ai pas trop insisté mais pour dire écoute Gabriel I'm here.
Ok, donc va falloir continuer encore un petit peu de ton côté, montrer, augmenter le nombre d'auditeurs pour ensuite que Gabriel t'ouvre ses portes,
C'est ça.
probablement. Ok, intéressant. Et si on passe du côté un peu plus learnings, là on a parlé pas mal des étapes de lancement. Toi de ton côté, alors déjà, est-ce que tu pourrais peut-être nous repartager quelques chiffres au sujet du podcast aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Donc bah là aujourd'hui nous enregistrons ensemble le 100e épisode, sachant que comme je te disais tout à l'heure, le premier épisode était sorti au mois d'avril 2020. Donc en tout, ça fait 63 semaines que le podcast existe. J'ai eu l'honneur d'interroger 95 invités différents au cours de ces épisodes, sachant qu'il y en a avec lesquels on a fait des épisodes bis, comme toi par exemple. Aujourd'hui, il y a plus de 16 000 écoutes. Ça représente plus de 50 heures d'enregistrement. Et est-ce que c'est beaucoup ou pas? J'ai envie de dire, dans l'absolu, c'est une goutte d'eau. Et par contre, c'est une cible, enfin des auditeurs qui sont ultra ciblés. Donc, je sais que toutes ces écoutes-là, elles sont hyper qualitatives. Donc, ça me fait hyper plaisir.
Top. Et c'est bien d'avoir ces quelques stats avec ces chiffres clés. On sent l'account manager qui gère bien aussi ses KPI. Et c'est top. En tout cas, c'est vrai que bah, même 16 000 écoutes, c'est un très beau chiffre déjà en tant que tel. Et d'autant plus, surtout que tu as fait évoluer ton podcast. Et on va aussi y revenir dans une de mes questions. Et en termes de learning sur toi-même, ton évolution en tant que personne qui a interviewé des gens. Au bout de combien d'épisodes, tu as senti que la chose prenait, que tu étais beaucoup plus à l'aise avec les personnes que tu interrogeais?
Je pense que c'était vers septembre-octobre 2020, je devais en être à une cinquantaine, soixantaine d'épisodes. En fait, je me suis dit, ah punaise, j'en ai marre de faire du montage, ça me saoule parce que en fait, je vais limite passer plus de temps en post-production qu'en kiffance pendant la prod. Et c'est à partir de là que je me suis dit, écoute, je pense que je vais vraiment sortir le jus de chaque invité dès qu'on enregistre et faire le moins de montage possible.
Ok, et à partir du moment là où tu t'es dit ça, il y a eu ce déclic et tu as commencé à beaucoup plus profiter finalement du moment présent et de l'invité.
Ouais, tout à fait. Avant, je laissais trop la souplesse de dire, écoute, si tu te trompes, t'inquiète, on fera du montage. Et en fait, je me suis rendu compte que le pain était supérieur au gain. Et je me suis dit, écoute, il y a deux solutions. Soit j'arrête ce podcast, soit je continue, mais je m'impose des règles beaucoup plus strictes.
Et c'est quoi la chose finalement la plus difficile quand tu interroges quelqu'un?
C'est que les personnes que j'interroge, généralement, elles sont passionnées comme moi. Et en fait, on peut y passer des heures et des jours, tu vois. Pour te donner un exemple concret, j'ai récemment invité François, qui est senior CSM chez LinkedIn. Et je peux te dire qu'au bout de 40 minutes, on n'avait même pas terminé la deuxième partie. Et moi, je pouvais pas l'interrompre. C'était impossible parce que je voulais vraiment aller au bout de son histoire et je trouve ça hyper intéressant. Sauf qu'il faut aussi revenir à la réalité des choses. Le podcast métier, c'est un format qui nécessite d'être snackable. On va pas écouter ça pour se détendre le week-end ou au bord de l'eau. C'est plutôt si tu fais ton trajet en métro le matin, tu as 30 minutes top chrono, tu as envie d'apprendre un truc. Et pour respecter ce format qui marche bien, il faut aussi que je mette des limites à mon invité et à moi-même. Donc, entre guillemets, c'est plus tu parles, plus je coupe.
Ok, super intéressant. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que ton format de podcast, moi personnellement, en termes de podcast, j'écoute pas non plus les podcasts qui dépassent un certain nombre de temps. J'aime bien les podcasts, comme tu le dis, snackable, j'aime bien l'expression, qui font plutôt voilà, 35, 40, 45 minutes. Si c'est plus, ça devient plus compliqué aussi d'être actif et d'écouter. Je pense que là-dessus, c'est bien. Mais comme tu le dis, on revient sur la gestion du temps, que ce soit en tant qu'account manager. Là, du coup, tu l'as sur un podcast en tant que tel, un épisode. C'est un vrai sujet et du coup, ça ne peut pas être évident. Si du coup, dans ton podcast, ce qui est intéressant, c'est que tu as interrogé beaucoup de personnes d'horizons très divers, donc à la fois de grands groupes, à la fois de start-up. C'est quoi les grands décalages que tu as pu constater ?
Bah, tu vois, dans les entreprises de plus petite taille, tu vas tout de suite avoir des intitulés de poste assez prestigieux comme Head of, Key, quelque chose. Alors, je dénigre pas du tout ces postes et au contraire, je dis juste que dans des équipes plus réduites, bah, tu vas vite avoir des gros titres, en fait, avec un management assez limité, finalement. Donc ça, c'est la première différence que j'ai vue. Il y a aussi une question de segmentation et de spécificité de l'équipe. Dans des entreprises beaucoup plus grandes, beaucoup plus matures, il va y avoir des rôles qui vont être bien définis comme expansion, toi l'équipe expansion, tu vois, au sein de l'équipe CSM, tu vas avoir des retention managers au sein de l'équipe CSM, tu vois, il y en a qui sont chargés de la partie care, il y en a qui sont chargés de la partie expansion, il y en a qui sont chargés de la partie anti-churn, tu as même chez LinkedIn, alors ça m'a cloué, c'est des SDR dans l'équipe account management. C'est-à-dire que pour faire de l'expansion, tu as des SDR. C'est comme si toi, dans le prolongement de ton équipe, tu avais des gens qui étaient là que pour qualifier les opportunités chez tes propres clients. Et ça, c'est incroyable. Là, franchement, LinkedIn, ils m'ont bluffé. Tu as aussi Slack, tu vois, Jonathan, que j'avais interrogé chez Slack, qui me parle de... stratégie où eux, ils vont à l'avant-garde des besoins de leurs clients. Ils disent « Ok, j'ai regardé dans la presse, je sais que votre stratégie pour les 6 prochains mois ou 12 prochains mois, c'est d'atteindre tel chiffre d'affaires. Nous, on a décidé de vous accompagner de telle façon pour vous aider à y arriver. » En fait, les mecs, c'est des killers, quoi. C'est-à-dire que la phase de découverte, ils l'ont déjà faite eux-mêmes en amont et ils arrivent avec des solutions toutes faites sur un plateau. Et ça m'a vraiment bluffé.
Ok, donc beaucoup, en fait, beaucoup plus de profondeur dans le métier chez des plus grosses boîtes, avec notamment, là tu t'as pris l'exemple de LinkedIn, versus des startups où finalement tes responsabilités sont beaucoup plus larges et tu as aussi un scope qui lui demande beaucoup plus d'investissement et du coup différentes casquettes au final.
Ouais, disons que dans les entreprises plus petites, tu vas commencer par la partie réactive. Ça va être du support, après ça va être du support plus, et après ça va être la partie proactive, mais ça vient avec le temps.
Ok, super, super intéressant comme comparaison et mise en évidence. Est-ce que aujourd'hui, sur ton podcast, tu l'as fait beaucoup évoluer, donc même ça, même le fait que t'es convié des grands groupes, c'était pas le cas au début. Tu l'as aussi fait évoluer en termes de structure avec la mise en place notamment de débats entre deux interlocuteurs. Comment s'est fait cette évolution et est-ce que c'était quelque chose qui t'était remonté des premiers épisodes qui avaient été écoutés?
Alors, c'était en effet des sujets qui étaient assez récurrents au fil de mes différents échanges. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, même si on a des missions un peu différentes, on a des méthodologies un peu différentes, en fin de compte, on a des sujets qui nous rassemblent, qui soit nous posent problème à tous, ou soit vont nous interroger un petit peu. Et je me suis dit, autant mettre en perspective ces sujets et faire parler deux interlocuteurs qui volontairement n'ont pas le même point de vue pour essayer d'en tirer des réflexions. Alors, c'est jamais un avis tranché à la fin, mais en tout cas, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le débat et c'est de montrer concrètement d'où vient ton point de vue au sein de ton entreprise. Je prends l'exemple très concret de est-ce que le fait d'avoir un salaire variable est un biais dans la relation client ? Tu vois, donc ça, c'était le premier débat que j'ai trouvé passionnant. Parce que moi, j'ai toujours eu à titre perso un variable. Et là, le fait de se dire pas de variable, waouh, ça fait rêver. Mais est-ce que je serais aussi challengée? Bon, voilà, c'est des interrogations. T'as où s'arrête le métier du support et où commence celui de la proactivité dans le métier de CSM, par exemple. Est-ce que on doit avoir un aspect commercial dans notre métier ou est-ce qu'on est plus là pour le care? Donc, c'est aussi les différents intitulés de CSM versus account manager. Et moi, il y avait un sujet qui se détache un petit peu de la partie business, mais qui était une vraie interrogation. C'était est-ce qu'il y a davantage de femmes dans ce rôle? Donc, j'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, je trouvais intéressant. Et tu vois, c'est un des best-sellers, celui-là, cet épisode.
Ok. Et là-dessus, comment tu faisais pour trouver, enfin, tu as cité quelques sujets. Comment tu as défini, toi, les sujets? Comment tu trouvais les personnes à la fois qui étaient pour et celles qui étaient contre pour les débats?
Bah, justement, ça, c'était à partir des interviews individuelles que je faisais. Tu vois, typiquement sur un débat qui serait est-ce qu'il faut forcément rencontrer physiquement ses clients pour avoir de meilleures relations avec eux? Bah, je savais, par exemple, lorsque j'avais interrogé Arnaud de chez Celsi, lui, il est tout le temps à distance, alors que notre ami de chez Clini, lui, il allait tout le temps se déplacer chez ses clients. Et il disait, bah, pour moi, c'est hyper important d'avoir leur mimique, de capter le moindre geste qu'ils font pour avoir leur confiance et l'humour aussi. Donc voilà, ça, c'était vraiment au fil de l'eau. Après, sur des débats comme est-ce qu'il vaut mieux avoir un gros portefeuille avec beaucoup de petits clients, un peu comme moi, ou plutôt un portefeuille restreint de très gros clients. Tu vois, François de chez LinkedIn, il a 5 clients, quoi. Donc, de mettre en perspective un peu, genre, tu t'ennuies pas avec seulement 5 clients?
Ok, donc en fait, finalement, ça t'a pas mal inspiré les premiers échanges que tu as pu avoir pour retrouver rapidement des bonnes personnes qui seraient prêtes à débattre dans la saison 2 du podcast.
Oui, tout à fait.
Très clair. Et dernière question en termes de learnings pour toi. Du coup, on arrive aujourd'hui là au 100e épisode. Est-ce qu'avec du recul, il y a des choses que tu aurais peut-être voulu faire différemment?
Franchement, sur la partie des invités, non, pas du tout. J'aurais tout fait ISO, parce que moi aussi, c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir des nouvelles idées. En revanche, et je le savais déjà, mais j'ai fait ça par flemmardise, j'aurais dû, dès le début, tenir un tableur Excel et mettre les réponses des uns et des autres dans un tableau pour pouvoir ensuite commencer un véritable travail comparatif. Je sais que je vais devoir me retaper les 100 épisodes parce que c'est un travail que j'ai vraiment envie de faire, ce côté un peu scientifique de la recherche des différentes missions qui existent dans l'écosystème sur notre métier. Tu vois, quel outil est utilisé, quel CRM, est-ce qu'il y a une équipe très segmentée, peu segmentée, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une étude que j'ai envie de mener et je me dis que si j'avais fait le taf depuis le début, en fait, j'aurais juste à faire des filtres aujourd'hui.
Tout ça pour nous annoncer en filigrane que tu vas sortir un bouquin sur les best practices de l'account management, Darina.
Ah, j'aimerais bien. Et alors, dans quelle échéance? Ça, je serais incapable de le dire.
Du coup, il y a d'abord l'Excel à faire. Après, ensuite, ouais, on passera à la rédaction du bouquin.
Bah, je t'avoue que s'il y a une petite personne bien calée en Excel qui nous écoute et qui a envie de contribuer, n'hésite pas à me contacter.
Top. Merci pour ça. Peut-être que là, on peut passer à la toute dernière section du podcast pour les dernières minutes qui nous restent. C'est un peu un fast and curious. Sur Amcamgram. Du coup, pour commencer, l'épisode qui a été le plus compliqué à enregistrer ou mettre en place?
Alors, c'est l'épisode numéro 7 avec Grégoire qui travaille chez Georges Tech, qui s'appelle maintenant Indy. En fait, je lui avais dit non, prépare pas trop ton interview, et en fait, il avait vraiment écouté à la lettre, et à chaque fois que je lui posais une question, il me disait Voilà. Bon, au final, il est super bien sorti son épisode. Et puis, ça fait partie aussi des épisodes les plus écoutés.
À l'impro. Parfait. C'est ce qu'on adore. L'anecdote racontée qui t'a le plus marqué?
Alors là, c'était dans l'épisode 31. C'est Claire qui est account manager chez Le CISO. D'ailleurs, elle a évolué aujourd'hui dans l'entreprise. Où elle me racontait que son parcours, en fait, elle était anciennement coiffeuse, tu vois, elle avait fait des études de coiffure, et lorsqu'elle s'est retrouvée chez le CISO en tant que account manager, bah, elle avait reçu pas mal d'avis négatifs avec un peu ce syndrome de l'imposteur de la petite nana blonde, bien maquillée, bien sur elle, qui veut faire du business. Et ça m'avait vraiment touchée.
Ok, super clair. Le retour le plus sympa, agréable, que tu as reçu d'un auditeur?
Bah, j'ai reçu plein de retours, c'est impossible de choisir. Peut-être un retour un peu insolite, c'est Badel, qui est directeur de Five Guys Châtelet, qui m'a dit un jour, écoute, salut, enchantée, j'ai découvert ton podcast et je l'écoute régulièrement. Je lui ai dit, attends, excuse-moi, j'ai bien lu ton LinkedIn, t'es directeur d'un Five Guys, enfin, je vois pas en quoi le métier d'account manager va t'intéresser, quoi, même si je suis ravie. Et il me dit, bah ouais, mais en fait, ça m'aide vachement pour toute la partie service client. Et d'ailleurs, lorsque les restaurants auront réouvert, bon, ça c'était pendant le confinement, dès que mon resto ouvre, je t'invite pour voir comment j'assure le service client B2C à la perfection. Et il a tenu sa promesse. Et du coup, il y a quelques jours, je suis allée faire le tour du Five Guys à Châtelet pour voir un peu toute l'attention qui est portée aux clients, mais côté B2C.
Excellent. C'est vrai que finalement, sur ton podcast, on voit beaucoup de boîtes plutôt B2B.
Ouais.
Moins de personnes en B2C. Du coup, super intéressant, à mon avis, pour toi. D'avoir pu voir ça.
Carrément.
Du coup, est-ce que tu aurais, enfin, quel serait l'épisode rêvé que tu n'as toujours pas réussi à tourner?
Alors, j'ai identifié, c'est un account manager qui travaille chez Buzzman. Buzzman, une agence de com que j'adore particulièrement. J'ai déjà eu quelques échanges avec lui, mais il me file à chaque fois entre les doigts et je lui écris sur LinkedIn, je viendrai te chercher avec les dents.
Donc on espère le voir bientôt du coup sur le,
bah,
sur le
l'entendre podcast. Ouais, bah franchement, ça fait, je t'avoue que ça fait une demi-année que je cours après, donc est-ce que ça va se concrétiser ou pas, j'en sais rien.
On croise les doigts pour toi, Darina, tu vas y arriver. Deux dernières petites questions: account management ou customer success?
Ah non, mais je peux pas répondre là, je vais me faire des ennemis. Si je réponds à account management, tu vas couper court. Donc je vais dire vive le post closing.
Ah, c'est beau. Au moins on met tout le monde d'accord comme ça. Et tout dernier point pour ce Fast and Curious, l'épisode que tu n'as jamais publié.
Alors c'est un épisode d'une startup que je pourrais pas citer, mais qui prend des jolies photos. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'était un épisode qui avait été enregistré pour la première fois en duo, et en fait au moment le matin où je le publie, je reçois un message d'une des deux invitées qui me dit, écoute Darina, là on est dans une grosse difficulté financière, et en fait c'est pas du tout le moment pour nous de communiquer. Donc je ne l'ai jamais publié, alors qu'il m'avait pris des bonnes heures de montage, celui-là.
Comme quoi, il y a aussi les aléas dans ce monde du podcast.
Et
on ne peut pas toujours avoir du coup l'épisode qu'on a enregistré qui finit par être publié. Ok, super intéressant. Pour terminer cet épisode et cette centième, quels sont les projets pour la suite du podcast?
Bah, franchement, c'est une grande question. J'ai envie de faire évoluer. Et d'ailleurs, je suis preneuse de ton avis, Ellie, et de vos avis à vous. Si vous avez des feedbacks, des idées pour la suite, je suis complètement preneuse. Moi, ce à quoi j'avais pensé, c'est de se dire, bon, maintenant, on a bien compris, je pense, au bout de 100 épisodes, en quoi consiste les métiers de l'account management. J'aimerais bien avoir du concret et rentrer vraiment dans les retours d'expérience, et notamment ce que j'appelle, tu sais, les anecdotes gratinées, de dire, il s'est passé des trucs pas forcément cool avec des clients ou des situations très compliquées, et je me verrais bien, tu vois, continuer sur des petits formats archi-snackables d'une quinzaine de minutes, pour dire, bah voilà, il m'est arrivé ça dans telle situation, je m'en suis sortie avec tel levier, et ça pourra clairement être activable pour chacun.
Super, en tout cas avec plaisir, s'il faut remettre la main à la pâte et accompagner cette nouvelle saison d'épisodes. Et aussi, j'y pense, je pense que maintenant que le Covid, en tout cas, commence à diminuer, il faut qu'on puisse reprendre les fameux apéros Amcamgram que tu avais initiés. On n'en a pas fait beaucoup et moi, j'y ai même pas encore participé concrètement.
On avait fait un apéro clandestin au bord de la Seine alors que c'était interdit, quoi.
C'est vrai. Mais du coup, maintenant que c'est moins interdit, ce sera super intéressant peut-être de retrouver des personnes qui sont passées sur le podcast et avoir un apéro avec un peu plus de monde. En tout cas, c'est
avec 6 personnes maximum, j'ai envie de dire, autour d'une table quand même.
Oui, on peut faire ça, voilà, autour de 6 personnes.
Carrément, ouais. Je m'engage à organiser des apéros à MKM Gram très rapidement.
Super. Bah, merci beaucoup, Darina, d'être passée du coup de l'autre côté du micro cette fois-ci. J'espère que ça t'a plu aussi et que tu as pu voir ce que c'est ce côté-là. Et du coup, je te souhaite plein de bonnes choses et une belle continuation à la fois pour le podcast et à la fois pour ta vie et ta carrière en tant qu'account manager.
Merci beaucoup, Ellie. Salut, à bientôt.
Salut.